Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à la seconde séance de notre cours intitulé Histoire mondiale du Louvre. Comme je le disais en introduction, il ne s'agit pas, et ce n'est pas méthodologiquement souhaitable, de faire l'histoire mondiale du Louvre, mais bien davantage une histoire mondiale du Louvre, et peut-être, pour être tout à fait honnête, simplement de donner quelques fragments, quelques éclairages qui pourraient contribuer à une histoire mondiale du Louvre. Alors, vous vous en souvenez, le plan de notre cours que je vous remontre ici prévoit que nous nous occupions aujourd'hui de la question des lieux. La semaine dernière, nous nous sommes approchés de notre objet depuis très loin, depuis l'espace, avec une caméra du début du film Wonder Woman qui arrivait près de la Terre, traversait les nuages, tombait à pic sur la ville de Paris, puis sur la cour Napoléon et sur la pyramide du Louvre. Et aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur de l'institution avec son architecture et nous allons tenter d'en évaluer la part étrangère, entre guillemets, ce qui lie l'architecture du Louvre au monde, notamment par ses acteurs. Avant de commencer, je voudrais donner une indication bibliographique de toute première importance, puisqu'il s'agit d'une histoire du Louvre écrite, produite par l'institution elle-même. Je vous la montre ici, c'est un véritable monument en trois volumes, publié il y a quelques années chez Fayard, sous la direction de Geneviève Bresque-Bautier. Vous voyez son titre ici. Ouvrage auquel ont collaboré pratiquement toutes les conservatrices et les conservateurs du Louvre et d'autres autrices et auteurs, et qui donne une somme d'informations, une somme d'iconographie, une somme d'archives tout à fait considérable. C'est l'un des ouvrages les plus aboutis d'une institution muséale qui écrit sur elle-même. Et le travail que je me propose de faire avec vous, c'est de compléter parfois ou de confronter les informations contenues dans cet ouvrage remarquable avec des sources venues de l'extérieur, des sources qui regardent la chose parfois dans une autre perspective, sous un autre angle, pour tenter de faire une histoire relationnelle de l'institution, relationnelle au sens où le Louvre, par ses acteurs, par ses objets, par son architecture, par ses partis pris, par ses dynamiques, est lié à toutes sortes de régions du monde. Alors nous commençons comme toujours avec l'objet du jour, qui aujourd'hui n'est pas un objet, mais un monument que je vous montre ici. Certains et certaines d'entre vous l'auront peut-être reconnu tant il est familier aux Parisiens. On le voit ici, ce monument, dans une perspective ascendante, très raide. Nous sommes pratiquement sous un cheval qui se cabre. Nous le voyons du dessous, nous voyons le pied de celui qui le monte, pied chaussé à l'antique, à la romaine, avec des sandales nouées sur le tibia. Nous voyons son genou, nous remontons jusqu'à ses hanches où flotte un tissu drapé dans un grand mouvement. Cet homme a une chevelure épaisse et bouclée, il tient un bâton dans la main, et pour ceux et celles d'entre vous qui le connaissent, il s'agit de Louis XIV, comme l'indique d'ailleurs son socle. Le socle porte cette indication, cette inscription gravée en lettres à sérif, Louis XIV, d'après G.L.Bernini, dit Le Bernin, 1598-1680, Fontemplon de 1988. Alors, si j'ai choisi cet objet, c'est parce que d'une part, il lie le XVIIe siècle et le XXe siècle, comme nous allons le faire dans le cours d'aujourd'hui. Il lie la Rome pontificale où Le Bernin a été l'un des grands acteurs de l'époque baroque avec le Paris sous la Ve République de François Mitterrand, et il est au cœur du Louvre qui nous occupe. Il a une histoire, ce monument, qui, vous le verrez, sert de lien, crée un lien entre les différents aspects que nous allons évoquer aujourd'hui, et nous reviendrons à lui tout à la fin, de manière significative dans le film que j'évoquais tout à l'heure et que j'ai montré lors de la séance introductive. Le monument est absent. Il serait ici, pas tout à fait dans l'axe. On verra tout à la fin pourquoi. Mais engageons-nous donc dans la matière avec trois volets de ce cours. Le premier est intitulé Chronique d'un échec annoncé, point d'interrogation. Le second, De père en fils. Et le troisième, Un Américain à Paris. Dans un ouvrage très important que j'ai consulté pour préparer ce cours, Jean Lacouture, qui a mené des entretiens avec les acteurs principaux du Grand Louvre dans les années 80, Jean Lacouture, dans cet ouvrage intitulé L'invention du Grand Louvre, que je vous montre ici, Jean Lacouture écrit en introduction: 20 monarques, 30 architectes, dont 4 ou 5 étrangers, illustres ou obscurs, inspirés ou mal avisés, 129 projets répertoriés dont un quart fut tant bien que mal mené à bien, ont transfiguré le Louvre. Ici, Jean Lacouture nous rappelle que le Louvre est né Palais Royal, qu'au fil des siècles, il a été remodelé, changé, métamorphosé, il a connu des ajouts, il a été très hétérogène, et que le pouvoir politique, les changements de goût, les mouvements esthétiques l'ont transformé au fil des siècles pour lui donner le visage qu'il a aujourd'hui. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement, vous en doutez dans cette citation, c'est la parenthèse, les 4 ou 5 architectes étrangers. Nous ne les suivrons pas tous, j'en ai retenu simplement 3 pour la séance qui nous occupe aujourd'hui. Le premier a déjà été évoqué, a déjà été cité, et je vous le montre ici dans un autoportrait qui le montre âgé. Il s'agit du Bernin, Gian Lorenzo Bernini, représenté à l'âge qu'il avait à peu près lorsque son destin a croisé celui de Louvre. Puis, évidemment, nous verrons Yeo Ming-Pei, l'architecte chinois, américain, qui a contribué à donner au Louvre, qui a donné au Louvre le village qu'il a aujourd'hui. Et puis entre les deux, nous ferons une escale très rapide, trop rapide, avec auprès de Louis Visconti, qui au milieu du 19e siècle a achevé la fermeture du Louvre ou a donné sa forme au Louvre lorsqu'il était lié aux Tuileries. Alors, première partie, chronique d'un échec annoncé, Dans sa remarque selon laquelle, 4 ou 5 étrangers ont contribué à l'architecture ou au visage du Louvre, Jean Lacouture emploie ce terme d'étranger et j'ai voulu, avant de commencer, aller vérifier ce qu'il pouvait signifier. J'ai consulté pour cela le dictionnaire du CNRTL, qui est l'institution lexicologique online la plus sérieuse actuellement. Et le terme d'étranger, nous révèle le CNRTL, peut, quand il est substantif ou adjectif, signifier d'abord, comme on s'en doute, celui ou celle qui n'est pas d'un pays, d'une nation donnée, qui est d'une autre nationalité ou sans nationalité, donc être étranger, être né ailleurs, peut être pris dans un sens politique, un sens de frontière d'une part, un sens national, mais également, et ça m'intéresse beaucoup ici, l'étranger est celui ou celle qui n'est pas familier ou familière d'un lieu, qui ne fait pas partie d'une collectivité donnée. On voit bien donc qu'il y a une acception, si on veut, sociologique au terme d'étranger, à l'extranéité, et cette dimension sociologique, me semble-t-il, va être extrêmement importante pour les questionnements qui nous occupent aujourd'hui, pour l'insertion, l'intégration ou non d'architectes étrangers, non français, à un projet qui est au cœur de la centrale atomique de la monarchie française, c'est-à-dire de ce qui a donné à la France sa représentation et peut-être son identité. Autre acception qui m'intéresse dans cette définition, ce qui est étranger, c'est quelque chose qui est sans lien et sans rapport avec quelque chose, qui ne fait pas partie d'un ensemble, donc qui est hors d'un organisme, hors d'un réseau peut-être, et le dictionnaire ici nous donne ici aussi une acception médicale avec l'idée du corps étranger que vous voyez ici, corps étranger qui est de nature différente de celle de l'organisme ou des tissus dans lesquels il se trouve par accident ou par introduction volontaire qui s'y développe de façon anormale. Retenons ces définitions pour la séance qui nous occupe et pour voir comment des étrangers, des hommes venus d'hors de France et hors de Paris et hors du milieu sociologique parisien très précis qu'il rencontre dans les années 1760 ou dans les années 1980, comment ce terme d'étranger colle ou va nous intéresser. Et je vous recommande la lecture
d'un remarquable article de Mathieu Couderc, Être étranger pour une histoire sociale de l'extranéité, paru en 2017, qui va nous montrer combien être étranger, ce n'est pas forcément et seulement une histoire de frontières, de politique, de nation, mais ça peut être aussi une histoire de code, d'esthétique, de règles du jeu. Nous sommes donc en 1665, quand le Bernin, le cavalier Bernin, comme on dit en France, arrive à Paris. Il est appelé par le roi Louis XIV, à cette époque, qui n'est plus tout à fait le très jeune roi qu'il a été au début de son règne, et qui s'est engagé avec l'aide de son ministre Colbert dans une énième amélioration du Louvre. Et pour vous rappeler que ce Louvre a toujours été un organisme vivant, je vous laisse regarder ici une modélisation rapide que j'ai extraite d'un remarquable documentaire d'Arte. Je vous la laisse regarder, je l'ai mise en accéléré simplement pour vous rappeler les métamorphoses du Louvre et pour voir où on en est à peu près au moment qui nous occupe au milieu du XVIIe siècle. On voit le donjon médiéval du Louvre dans ce qui deviendra la cour carrée, puis la destruction très symbolique de ce donjon quelques siècles plus tard, le remodèlement de la cour carrée, la construction de la petite galerie, son rez-de-chaussée, son premier étage, et puis enfin la grande galerie. On en est à peu près là, au milieu du XVIIe siècle. On en est à peu près là, au milieu du XVIIe siècle, quand se pose la question de la cour carrée. Alors, le problème de cette cour carrée, c'est que depuis qu'un grand bras réunit cette tête du Louvre avec le palais des Tuileries qui a été construit plus tard, ce grand bras lie un grand palais avec une tête qui paraît au début du XVIIe siècle trop petite. Ici, sur cette carte de Merian, où vous reconnaissez l'espace de la cour carrée, cette grande cour suggérée par la grande galerie, et on considère à cette époque-là que cette cour est trop petite. Je reviens
donc à la modélisation en 3D qui nous montre comment l'espace de la cour carrée va être doublé en largeur et quadruplé en surface pour lui donner une proportion plus convenable et plus en lien avec celle des Tuileries. Je vous laisse regarder à nouveau. Voilà donc l'état dans lequel se trouve la cour carrée au milieu du XVIIe siècle. Elle a une façade, une aile qui montre vers l'ouest, une aile qui montre vers le nord, vers la Rivoli, une aile qui montre vers le sud, le long de la Seine, et une aile encore ouverte, l'aile qui deviendra la colonnade du Louvre. Pour cette aile-là, se posent des questions, la question de savoir qui pourrait l'accomplir, qui pourrait la réaliser. Bien sûr, les architectes de la place, ceux qui ont déjà contribué aux Tuileries, qui ont contribué à ces ailes de la cour carrée, sont tout de suite extrêmement motivés, mais et notamment Levaux qui vient de jouer un rôle important pour les Tuileries, que je vous montre ici.
Levaux, dont les compétences ne vont pas inspirer confiance à Colbert, le ministre des Arts, occupé, comme vous le savez, de traduire le pouvoir royal de Louis XIV en architecture. Il fait un grand effort, ou un grand travail de traduction en architecture, en monument.
Et Colbert va avoir le sentiment que les architectes du cru, les architectes de la place, les architectes parisiens déjà engagés dans les différents éléments du Louvre ne sont pas à la hauteur. Il va faire appel à des architectes italiens. Non seulement ces architectes italiens vont adresser des plans à Paris et soumettre des plans à Paris pour cette aile du Louvre, mais l'un d'entre eux va être invité à grands frais à venir à la cour française et travailler pour Louis XIV. Et cet architecte italien, c'est la star absolue de l'époque, le Bernin, qui va arriver à Paris et y rester quelques mois en 1665. Je vous le remontre ici.
Quand il arrive à Paris, c'est une star absolue, c'est l'architecte du pape. Il vient de réaliser notamment la colonnade de la place Saint-Pierre, que je vous montre ici, dans le dessin qu'en a réalisé le Bernin, mais aussi dans l'aspect qu'elle a aujourd'hui. Cet architecte a donné à la ville de Rome des fontaines, des places, des monuments considérables. On pense aussi à la fontaine de la place Navone, à quelques églises. Il a donné à Rome son visage baroque et il est
extrêmement proche du pape. En le faisant venir à Paris, on fait venir non seulement une figure, une personnalité créatrice d'exception, mais on fait venir aussi, et sans doute que cela joue un rôle dans l'idée de l'inviter à Paris, une manière, une proximité extrême d'un artiste avec le pouvoir pontifical, et c'est cette proximité que tente d'acheter d'une certaine manière Colbert pour Louis XIV. Pendant plusieurs mois, le Bernin travaille à des plans à Paris, il visite la ville, il sculpte quelques portraits, notamment celui de Louis XIV, et il finit, après les avoir pris et redessinés et repris, par s'accorder, malgré des difficultés, sur une façade que vous voyez reproduite
sur une médaille gravée par Varin à l'occasion de la pose de la première pierre de cette nouvelle aile, médaille qui montre donc d'un côté la façade pensée par le Bernin, le dernier état de son projet, et sur l'autre face, que je vous montre ici, le profil de Louis XIV.
Et pourtant, malgré ce travail, malgré le fait qu'une première pierre ait été posée, ce n'est pas la façade prévue et l'aile prévue par le Bernin qui va être construite, mais comme vous le savez bien, et je vous la montre ici, c'est une colonnade d'ordre tout à fait non baroque, classique, qui va être construite au fil de plusieurs décennies après le départ du Bernin par un collectif d'architectes parisiens, par le collectif ou par les architectes parisiens qui étaient là avant la venue de Bernin, du Bernin et qui restent après lui. On va revenir sur ce qui s'est passé pour expliquer cet échec. Car c'est un échec et la question se pose aussi dans l'historiographie italienne. Je vous montre ici et j'ai travaillé avec cet
ouvrage très important d'une collègue italienne qui s'interroge sur les raisons de l'échec du Bernin, perché Bernini a fallito. Il s'agit de Daniela Del Pesco dans un ouvrage intitulé Bernini en France, Paul de Chanteloup et le journal de voyage du cavalier Bernin.
Alors, ce journal de voyage est extrêmement important. Il est important pour l'historiographie française puisqu'il retrace certains éléments de la présence du Bernin à Paris, mais il est important pour l'historiographie mondiale, si on veut, pour les questions d'esthétique, les questions de pratique, de méthode architecturale au XVIIe siècle, et il a été traduit dans un très grand nombre de langues. Je vous montre ici
les traductions allemandes, russes, espagnoles, anglaises et italiennes du voyage, qui est une source
de toute première importance et que j'ai utilisée pour répondre à la question qui nous occupe, pourquoi cet Italien a-t-il échoué et surtout pourquoi cette star appelée de Rome à Paris a-t-elle pu échouer? Outre cette source italienne, j'ai voulu utiliser une source allemande qui éclaire l'ambiance parisienne, la sociologie, les réseaux, les phénomènes d'inclusion et d'exclusion qui se passent à Paris à ce moment-là autour de ce projet royal de toute première importance. C'est un texte du grand mathématicien Gottfried Wilhelm Leibniz, mathématicien allemand, qui, quelques années après l'échec du Bernin, a séjourné à Paris et a écrit un manuscrit publié beaucoup plus tard au XIXe siècle, que je vous montre sa publication ici.
Manuscrit intitulé, comme vous le voyez, manuscrit inédit de Leibniz, Les plans de l'achèvement du Louvre et la pyramide triomphale de Perrault.
Alors ce texte m'a particulièrement intéressée puisqu'il fait déjà, il évoque déjà une pyramide de Perrault, Claude Perrault, qui est l'un des contributeurs de la colonnade. On va y revenir dans un instant. Ce texte en langue allemande nous donne des indications extrêmement intéressantes sur la manière dont le Bernin a été reçu par ses collègues français et dont il s'est positionné dans le champ français avec le background, comme on dirait, avec le CV, la biographie qui était déjà la sienne et qui était considérable. Alors si on a en tête le concept d'étrangeté, d'extranéité, le fait d'être étranger, le texte de Chanteloup qui rapporte rétrospectivement comment s'est passé le voyage d'Hiberna en France est très intéressant. Ce texte, évidemment, est à prendre avec des pincettes, c'est un hybride entre ce qui a pu peut-être se passer réellement, ce qui a pu être dit réellement, et des intentions, celles de Chanteloup, de réhabiliter d'une certaine manière le Bernin qui est parti en mauvais termes de Paris. Donc, on a ce texte est une sorte d'hybride que je signale dans l'image suivante en fusionnant le visage de Chanteloup et le visage du Bernin.
Et ce texte nous donne des indications précieuses, d'abord sur la question de la langue. Première citation. « Je suis allé le saluer, nous dit Chanteloup, et lui ai fait mon compliment en français. J'ai connu d'abord qu'il ne l'entendait point, et lui ai dit en italien que je ne me hasarderais pas de lui faire des compliments en sa langue même. » Donc, première difficulté, une difficulté pragmatique de langue, même si à Paris, dans ces années du milieu du XVIIe siècle, pour des raisons dynastiques notamment, l'élite parle italien. Néanmoins, on voit ici que ça crée un filtre, une distance. Deuxième difficulté, le Bernin ne respecte pas, ne veut pas ou ne peut pas ou ne connaît pas les étiquettes, les usages et ne les respecte pas. Chanteloup revient beaucoup dans son récit de voyage sur ces questions du Bernin couché, comme vous le voyez ici par exemple. Après dîner, Monsieur Colbert est arrivé, le cavalier étant encore dans le lit, selon la coutume qu'ont les Italiens de s'y mettre après le repos. Il a voulu se lever brusquement, mais Monsieur Colbert n'a pas voulu et lui a parlé à son lit.
Ces problèmes d'étiquette, de coutume, de mœurs sont permanents et Chanteloup tente toujours de les excuser de manière nationale en expliquant que le Bernin n'y pouvait rien, les Italiens sont comme ça. Plus grave sont les moments où le Bernin manifeste sa désapprobation, son peu d'intérêt, son dégoût parfois, pour la ville de Paris et pour son architecture, et notamment son architecture la plus prestigieuse, les Tuileries qui viennent d'être réaménagées.
Quand le roi lui demande, citation, comment il a trouvé les Tuileries, Chanteloup nous dit, il a dit encore donc, le Bernin, que le roi lui ayant demandé ce qui lui semblait du palais des Tuileries, il avait répondu « che gli pareva una grande picciola cosa » et a ajouté que c'était comme un grand escadron de petits enfants.
Donc, absolu franc-parler de cette star de l'architecture qui considère que les Tuileries, c'est minuscule, c'est rien, ça n'en vaut pas la peine, c'est une grande petite chose. La question de la taille, de la grandeur ou de la petitesse des choses est tout à fait cruciale dans ce texte et en général dans les projets que le Bernin propose à Paris. On pourrait multiplier les exemples. À la Porte Saint-Antoine, par exemple, il considère que
on dirait la porta d'un studiolo, une porte minuscule, alors qu'il s'agit d'une porte monumentale, et plus généralement sur Paris, un jour qu'on le mène à Meudon, Chanteloup écrit « Il nous a fait remarquer que de dessus cette hauteur de Meudon, où l'on était, on ne voyait à Paris qu'un amas de cheminées et que cela paraissait comme un peigne à carder. Il a ajouté que Rome a bien une autre apparence, parce qu'on y voit Saint-Pierre en un endroit, le Campidoglio en un autre, Farnèse ailleurs, Monticavale, le palais de Saint-Marc, le Colisée, la Chancellerie, le palais des Colonnes et nombre d'autres semés ça et là qui avaient de la grandeur et une apparence fort, magnifique et superbe. »
Ici, c'est très clair, la comparaison se fait toujours avec Rome et cette comparaison permanente entre Paris qu'il trouve qui ne respire pas, qui a des proportions trop petites, qui n'a pas d'accent posé dans la ville, et Rome, à qui, lui, le Bernin, a donné son visage baroque, est permanente, omniprésente. Il dénigre l'architecture et les architectes contemporains, ses contemporains, à Paris.
Outre la façade ou l'aile orientale de la cour carrée et la façade pour laquelle il a été invité à venir à Paris, le Bernin est consulté sur ce qu'on pourrait faire dans le grand espace qui est entre les Tuileries et le Vieux Louvre.
Dans ce grand espace, on va voir dans un instant ce qu'il propose. Je vous montre d'abord quelques-unes des esquisses qu'il a dessinées ou qu'il a fait dessiner par son assistant pour la façade du Louvre. Vous y reconnaîtrez un esprit baroque, mouvementé, mais vous verrez aussi qu'il a adapté son dessin selon les indications que lui donnait Colbert notamment. d'une part, et d'autre part, je vous montre ces esquisses parce qu'elles sont réparties dans le monde entier, les unes à Londres, d'autres à Paris, l'une même à Stockholm, et qu'une histoire mondiale d'une institution comme le Louvre, c'est aussi une histoire de ses sources réparties dans le monde entier. Je les montre sans trop les commenter. La première est donc à Londres.
Il s'agit d'un détail de la façade prévue à l'emplacement de l'actuelle colonnade. Le second dessin montre cette même façade, dans ce même esprit, tel qu'il est conservé dans un dessin conservé au musée du Louvre. Et la troisième façade est une version, une autre version, qui est conservée au musée national de Stockholm.
L'autre donc grande question qu'on pose au Bernin quand il arrive à Paris, c'est celle de l'espace entre les Tuileries et le Louvre. Ici, il propose la chose suivante, selon les indications que nous donne Chanteloup.
Monsieur Colbert l'avait prié de penser à quelque chose qui pût remplir le grand vide qui est dans cet espace, et la réponse du Bernin, c'est qu'il faudrait y faire un espèce d'amphithéâtre géant à l'imitation du Colisée et du théâtre de Marcellus, donc importer en quelque sorte l'Antiquité romaine et la mettre au XVIIe siècle au cœur de Paris. Ce serait un grand amphithéâtre dans lequel on pourrait placer jusqu'à 10 000 personnes de la noblesse, au milieu duquel il faudrait qu'il y ait un appartement pour quelques grands princes étrangers.
Élément intéressant ici, le Louvre enchâsserait un appartement fait pour accueillir les étrangers, les hôtes de marque, la diplomatie, peut-être pour impressionner ceux-ci en son cœur, en son corps.
Et puis, le Bernin propose que dans cet espace géant, gigantesque, on installe deux colonnes comme la Trajane et l'Antonine, et entre les deux, un piédestal où serait la statue du roi à cheval avec le mot de non plus ultra, allusion à celle d'Hercule, etc., etc.
Donc, ce n'est pas une architecture d'intrusion ou d'adaptation que le Bernin propose ici. Il propose de créer, de faire de gros accents puissants dans la ville. Alors, au plus tard, à ce moment-là, il s'attire la haine d'un grand nombre d'architectes parisiens, comme en témoigne Leibniz quelques années plus tard. Leibniz, que je cite ici,
quand il était à Paris, il méprisait tout ce qu'on lui montrait, il trouvait misérable tout ce que les Français avaient fait, et quand il voyait un tableau ou une statue d'un Italien ou antique, il s'y arrêtait. Cependant, messieurs Perrault étaient bien mortifiés de se voir ainsi rebutés.
Alors, les messieurs Perrault, ce sont Claude Perrault, déjà évoqué, médecin principalement, mais également architecte, mais aussi et surtout son frère, Charles Perrault, le célèbre Perrault des Comtes de Perrault, qui était un fonctionnaire de la culture, comme on le dirait aujourd'hui, qui a beaucoup intrigué contre le Bernin pour placer notamment son frère. On y reviendra, et les propos que tient Leibniz sont des propos que lui a suggéré Charles Perrault, avec qui il a rencontré. On voit un Charles Perrault qui non seulement fait un travail de lobby important contre le Bernin auprès du pouvoir en place, mais qui en plus contacte des multiplicateurs étrangers pour asseoir le rejet du Bernin. Je poursuis la lecture de la citation.
Si on avait tout rasé, cela aurait dégoûté tout le monde et le roi même, et l'on aurait laissé là entièrement, peut-être même que cela était un effet de la jalousie italienne qui enviait à la France un bâtiment aussi prodigieux que le Louvre, car étant abattu, il aurait peut-être jamais été rebâti.
Ici donc, une fois de plus, une lecture nationale, une lecture de rivalité nationale, on soupçonne, on suggère que le Bernin pourrait être dans une position de bataille, de lutte contre la France, contre l'art français, parce qu'il est supérieur, parce qu'il serait supérieur à l'art italien, et que donc un effet de jalousie en appellerait la destruction. Je vous montre un instant le visage de Charles Perrault, qui a donc mené le travail de mobbing, de lobby contre le Bernin, vous le voyez ici.
Et lui aussi a composé des mémoires dans lesquelles il est très explicitement opposé à la construction de n'importe quoi, de tout au Louvre par le Bernin. Il écrit « Il était fort bon sculpteur, quoiqu'il ait fait une statue équestre du roi fort misérable et si peu digne du prince qu'elle représentait que le roi lui a fait mettre une tête antique. Et il était médiocre architecte et s'estimait extrêmement de ce côté-là. »
Donc, bon sculpteur, mais ce qu'il sculpte n'est pas bon, et très médiocre architecte, même s'il fait beaucoup d'esbroufes. Ce type Le discours va être répété beaucoup par Perrault, qui obtient, par le biais d'un mémoire qu'il écrit à Colbert, que finalement, malgré la pose de la première pierre et malgré des honoraires payés au Bernin, son projet ne soit pas réalisé. Je lis, en prévision de ce que je vais dire plus tard, un autre extrait des mémoires de Charles Perrault qui indique à propos des dessins fournis par le Bernin pour le Louvre la chose suivante, je le lis.
Comme le dessin du cavalier Bernin n'était pas très bien conçu et qu'il ne pouvait être exécuté qu'à la honte de la France, je fis un mémoire de quelques-unes des incongruités dont il était rempli.
Incongruité, c'est ce terme intéressant. En d'autres endroits, Charles Perrault parle de la bizarrerie des dessins italiens. On voit bien qu'on est dans le corps étranger, quelque chose qui ne marche pas, qui ne s'intègre pas à l'organisme préexistant du Louvre, qui était, comme je le dis, comme on l'a vu, un lieu encore extrêmement hétérogène à ce moment-là. Alors finalement, la colonnade ne sera pas édifiée selon les plans du Bernin, mais son passage à Paris et son discours sur la grandeur d'un roi qui doit s'exprimer en architecture, en proportion, en geste puissant, ce discours va laisser des traces et en tout cas va laisser des projets de monuments à la gloire de Louis XIV, non seulement la statue équestre qu'on a vue au début et qu'on reverra à la fin de ce cours, mais d'autres projets dont certains ont été retrouvés et publiés, et d'autres n'existent pas sous forme visuelle. C'est pourquoi je voudrais vous lire simplement rapidement la description d'un de ces projets pour le Louvre par Claude Perrault, décrit par le mathématicien Leibniz en ces termes, je le cite.
Monsieur Perrault le médecin est aussi auteur du dessin de l'arc triomphal. Il en avait fait plusieurs, on en choisit celui qui coûta le moins. Il avait proposé une belle pyramide, toute massive, percée par dedans d'un escalier étroit qui tourne en vis jusqu'en haut. Il y aura en haut un globe de cuivre de 3 toises de diamètre, tout massif. La hauteur sera 2 fois celle de la tour de Notre-Dame. Il me montra des devises pour les 4 faces qui représenteront les 4 parties du monde.
Alors, ce passage m'intéresse beaucoup puisque pour le moment, le monde dont on parle, le Louvre et le monde, l'histoire mondiale du Louvre, c'est un monde extrêmement européen. On a parlé pour le moment un peu d'Allemagne et surtout de Paris et de Rome. Mais ici, dans la symbolique de l'architecture projetée, le monde va être représenté sur les 4 faces d'une pyramide. Imaginez une pyramide gigantesque qui serait placée au cœur du Louvre, pyramide qui, en quelque sorte, serait le monde, qu'embrasserait le palais du Louvre. Ça me paraît, pour l'iconographie du pouvoir, extrêmement intéressant de voir comment sont définies ces 4 faces, les 4 faces de cette pyramide qui n'a jamais été réalisée et qui, à ma connaissance, n'est pas fixée dans des documents d'archives qu'on aurait retrouvés. Je lis rapidement la suite.
Les 4 faces qui représenteront les 4 parties du monde, donc un aigle regardant le soleil avec ces mots « Me sustinet unus » pour l'Europe, pour signifier l'empereur seul capable de regarder ce soleil. Cela aussi est honorable à l'empereur qu'au roi. Asie représentée par un phénix qui signifie l'empire ottoman avec ce mot « Me suspicit unum ». Afrique par un éléphant qui salue le soleil. Amérique par un dragon, etc.,
etc. Le monde est au cœur du Louvre. La pyramide qui était projetée à l'intérieur de ce Louvre serait un diamant, un miroir à 4 faces du monde. Alors, après avoir évoqué l'échec du Bernin, et nous quittons le milieu du XVIIe siècle pour faire un grand bond dans le temps et arriver 2 siècles plus tard au milieu du XIXe siècle. Entre-temps, le Louvre n'est plus un palais royal, c'est devenu un musée public qui a eu une heure de gloire autour de 1800 sous le nom de Musée Napoléon. Il a été fondé tardivement après la Révolution française en 1793 et depuis le XVIIe siècle, on continue de se demander comment finir cet espace entre les Tuileries et le Louvre. Il y a des plans absolument considérables et nous arrivons donc à la question ou à la personnalité qui a la première, fermer ce Louvre, réaliser donc la réunion du Louvre et des Tuileries, et cet homme, c'est Louis Visconti que j'évoquais tout à l'heure au début. Nous jetons avant de savoir comment a travaillé Visconti un coup d'œil sur l'état du Louvre dans les années 1830.
Vous voyez sur ce panorama de Paris, pour vous orienter ici, l'Arc du Carrousel. Ici, la cour carrée, enfin la façade ouest de la cour carrée, la Seine tout à fait à droite, et puis à l'intérieur de cet espace à qui il s'agit de donner forme, des hôtels particuliers, des maisons qui encore en 1830 occupent l'espace et qu'il faudrait réussir à éliminer pour faire quelque chose de ce Louvre. Par ailleurs, sous Napoléon a été créé un morceau d'aile, mais qui ne va pas jusqu'au bout, qui ne va pas jusqu'à la cour carrée, mais qui est accolé aux Tuileries et que vous voyez ici éclairé. Cet ensemble devant donc être retravaillé.
Alors, qui est à même de réaliser cette réunion du Louvre et des Tuileries? Ce sera Louis Visconti. J'ai annoncé au début du cours qu'on passerait beaucoup trop vite sur sa personnalité. Je vous montre la tombe de Louis Visconti.
Donc, cet architecte, soit dormant, soit mort, avec le crayon à la main et des plans sous le poignet, et au-dessus de lui, de manière significative, représenté à l'antique, de manière frontale, son père, Ennio Quirino Visconti. Alors, Ennio Quirino Visconti, c'est un personnage extrêmement intéressant, puisqu'il était le conservateur des antiques du musée Pio Clémentin à Rome, lorsque Bonaparte et la Révolution française se sont emparés d'une grande partie de ces antiques, les ont rapportés, transférés à Paris, et Visconti est venu, pour ainsi dire, avec sa collection à Paris pour devenir le premier conservateur des antiques au musée Napoléon, au Louvre. Italien qui arrive à Paris et lui-même fils d'un grand homme de musée, puisque le grand-père de Louis Visconti et le père de Ennio Quirino Visconti était le gardien, le préfet des antiquités romaines. Vous voyez ici une page de la description du musée Pio Clémentin par Giambattista Visconti, et Giambattista Visconti est, à vrai dire, le fondateur du musée Pio Clémentin. Donc on est face à une lignée, une dynastie d'hommes de musée, et Ennio Quirino Visconti, le père de Louis, s'est fait naturaliser en 1815. Vous voyez ici la citation du bulletin des lois qui indique qu'il obtient des lettres de déclaration de naturalité le 13 décembre 1814 au sieur Ennio Quirino Visconti. Donc là, on n'est pas tout à fait avec Louis Visconti face à un étranger qui apporterait une finition ou un acte déterminant au Louvre, mais bien un enfant d'immigré, pour ainsi dire, un enfant de père italien naturalisé. Et vous voyez au tombeau ici, si on zoome sur le socle, que la réunion du Louvre et des Tuileries, ce grand Louvre, ce nouveau Louvre, est l'œuvre attachée complètement au nom de Louis Visconti, qui d'ailleurs a une cour à son nom dans l'actuel musée Napoléon. Alors, si on regarde sa réalisation, elle a été beaucoup mise en valeur, lui-même est mort au tout début du chantier, et c'est finalement son successeur. Vous voyez ici le plan, pardon, de ce nouveau Louvre, réalisé d'après les plans officiels de Monsieur Louis Visconti, nous indique la légende. Mais Visconti donc va mourir bien avant la fin du chantier, et c'est un certain Hector Le Fuel, que vous voyez ici, qui va reprendre dans des conditions pas très claires le chantier et modifier considérablement les plans de Visconti jusqu'à ce qu'on considère que l'histoire
voit est en grande partie actuellement due à Hector Le Fuel. Nous faisons un autre bond d'un siècle, plus d'un siècle, pour nous retrouver dans les années 1980, troisième partie, un Américain à Paris. Pour m'engager avec vous dans cette troisième partie, je voudrais vous faire écouter un extrait d'un documentaire de l'INA. Écoutez.
Les touristes qui visitent le Louvre ont l'habitude de plus en plus de venir pique-niquer, soit dans les jardins qui sont dans la cour intérieure, soit sur les bancs qui sont le long des galeries. Et même dans les jardins du Carrousel. Or, dans ces lieux, on ne trouve pas de corbeilles, ce qui fait que les détritus s'accumulent et volent avec le vent ou viennent s'accumuler contre les galeries et contre les monuments. Surtout en ce moment, avec les Jeux de Munich, beaucoup de touristes transitent par Paris. Et certainement, ces gens-là doivent avoir une piètre opinion des Français, et des Parisiens en particulier.
À votre avis, quels seraient les remèdes à apporter à cet état de choses ?
Bon, je pense qu'il est très simple de mettre des corbeilles et de bien les placer. De veiller à ce que les gens y mettent leurs déchets et surtout d'assurer un service d'enlèvement pour ne pas que les papiers volent de tous les côtés, même sous les fenêtres du ministre des Finances. La dépense ne serait pas excessive. Je pense qu'avec une douzaine de corbeilles bien placées, on en verrait la fin.
Monsieur Lecœur a raison de s'indigner devant le spectacle déplorable qui s'offre aux visiteurs de l'un des trois monuments les plus fréquentés de France. Ces images d'immondices et de papier gras abandonnés à eux-mêmes se passent de commentaires. Dans ces lieux, le pique-nique est bel et bien autorisé. Ces touristes laisseraient volontiers leurs déchets dans des corbeilles si elles existaient. Et s'il suffit de poser 50 corbeilles au total pour tous les jardins du Louvre et du Carrousel, solution modeste mais pourtant efficace, l'administration des Beaux-Arts hésitera-t-elle ? Il en va, soyons-en persuadés, de la réputation de la capitale.
La situation qui prévaut à Paris à ce moment-là, à la fin des années 70, au début des années 80, n'est pas unique à Paris. D'autres musées européens sont dans de très mauvaises conditions d'entretien. Je vous montre ici quelques images qui montrent Berlin-Est, le Neues Museum, juste après la réunification en 1990. Ainsi, un peu plus loin que le musée de Pergame, et puis tout au bout, comme vous le voyez, le Bode Museum. Et les musées de Londres, notamment le British Museum, est en proie à des difficultés semblables, au point que même le Times raconte qu'il pleut à l'intérieur de ses galeries sur les marbres du Parthénon. Donc un souci d'entretien et d'aménagement dans tous les musées européens à cette époque-là, souci qui exige qu'on installe des commodités pour les visiteurs qui sont en partie des touristes. Il faut dire que le Louvre, à cette époque-là, a à peu près le même nombre de visiteurs que Versailles, mais qu'il est bien en deçà, par exemple, 1977, 78, 79, bien, il reçoit beaucoup moins de visiteurs, par exemple, que le Centre Pompidou, qui lui fait une grande concurrence. Il est même en train de baisser. Les entrées sont mal organisées. L'historien de l'art André Chastel résume la situation en 1981 ou au début des années 80 en ces termes. Dans sa définition actuelle, le musée du Louvre est notoirement le plus mal tenu, cours intérieurs sordides, le plus mal surveillé, il fait allusion à une épée de Charles X qui a été volée, le plus mal propre, poussière, détritus, de tous les grands établissements internationaux. Le projet en cours est-il de nature à remédier à ce désordre humiliant ? Alors, le projet en cours qu'il évoque ici, c'est bien sûr le projet confié par François Mitterrand à l'architecte américain I.M. Pei. Le voilà. Yeo Ming Pei, quand François Mitterrand lui confie ce travail, est un homme de 65 ans qui a déjà une considérable carrière et un succès considérable derrière lui, carrière qu'il a menée principalement aux États-Unis. Je vous montre ici le formulaire d'entrée aux États-Unis du tout jeune homme de 18 ans qui arrive de Chine pour étudier aux États-Unis et qui arrive, il est né en 1917, tout jeune, en 1935. Ce papier est très intéressant, d'abord peut-être parce qu'il s'agit d'un papier, d'un visa d'immigration, où on voit une photographie du tout jeune homme ici, et puis on voit à cette date du 13 août 1935, date de son arrivée, qu'il va étudier à l'université. Quand il arrive en 1935, voulant être architecte, probablement, il s'intéresse déjà aux questions de design, d'architecture. Quand il arrive de Chine, qui est un pays encore sous emprise coloniale européenne, il arrive à un moment où, parallèlement, arrivent notamment d'Allemagne beaucoup d'architectes poursuivis par le régime nazi à partir du milieu des années 30, fin des années 30. Je vous montre ici notamment un télégramme reçu par le directeur, le fondateur du Bauhaus, Walter Gropius. Je vous montre ici notamment un télégramme reçu par le directeur, le fondateur du Bauhaus, Walter Gropius, qui est accueilli pour sa part également dans les années 35, 36, 37, au même moment où arrive Pei. Et c'est extrêmement significatif de voir que ce jeune Chinois va entrer en contact direct et intime et intense aux États-Unis, à l'université. Vous voyez ici à gauche un papier qui certifie qu'il a étudié au MIT et à droite un papier qui indique qu'il a étudié et même enseigné à Harvard. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Harvard, à ce moment-là, c'est le lieu où le Bauhaus en exil a installé ses professeurs et notamment Walter Gropius qui devient le professeur du jeune Pei aux États-Unis. Alors, c'est un jeune Chinois qui arrive à 18 ans, mais qui évidemment est pris dans un mouvement américain des années 30 et en contact avec l'Europe, avec la pointe de ce que l'architecture d'avant-garde proposait en Europe, le Bauhaus. Et Pei va vraiment s'imprégner de l'enseignement du Bauhaus, va devenir très ami avec plusieurs de ses représentants. Et d'ailleurs, je vous montre ici une photo où Pei a posé pour la presse, il est toujours proche, ou il n'hésite pas à donner des signes de son appartenance esthétique à ce mouvement international, mais d'origine allemande. Peut-être simplement pour visualiser les choses, je vous montre ici une des réalisations les plus récentes de Pei, c'est l'annexe et les salles d'exposition et l'entrée du musée historique allemand à Berlin, qu'on appelle à Berlin le Pei Bau, et si on le confronte ou si on les met à côté d'une affiche du Bauhaus, on voit combien la proximité, le vocabulaire des formes est proche. En quelque sorte, en tirant un peu le trait, on pourrait dire que Pei est un architecte du Bauhaus, en tout cas il a été formé par les représentants du Bauhaus en exil aux États-Unis. Si on se penche sur la biographie intellectuelle, sur la biographie esthétique de Pei, on est frappé de voir que son premier travail universitaire, son diplôme de fin d'études, était déjà consacré à un musée qu'il imagine pour Shanghai, un musée qui lui pose la question, où il essaye de résoudre la question du lien entre local et global, entre chinois et international. Je vous montre deux feuilles de ce projet. Lorsqu'en 1984, la France, François Mitterrand, décide de faire appel sans concours à M. Pei, il est déjà, je l'ai dit, un architecte internationalement reconnu et ses travaux principaux, je vous les montre ici rapidement, sont d'abord l'un de ses premiers travaux à un musée, le Everson Museum de New York, réalisé entre 1961 et 1968. Il a été très remarqué pour sa réalisation du Centre national de recherche atmosphérique ouvert dans le Colorado en 1967, mais aussi, et peut-être surtout, pour la bibliothèque Kennedy, réalisée entre 1976 et 1979. Mais c'est bien la National Gallery de Washington qui va attirer l'attention des autorités françaises. Et c'est extrêmement intéressant pour ceux qui n'y seraient pas encore allés de voir le positionnement de cette aile réalisée par Pei directement en face du Capitole, au plus près du pouvoir américain. Vous voyez ici François Mitterrand visitant la National Gallery à Washington, qui, dans les récits qu'il a fait ensuite du choix de Pei, a été déterminant pour son choix. Pei est un architecte internationalement reconnu et c'est un homme qui est très proche des souverains, des présidents du pouvoir. Vous le voyez ici photographié à côté de Jacqueline et Robert Kennedy au milieu des années 60, en train de tenir un discours, ou vous le voyez encore en 1940.
83, me semble-t-il, lorsqu'il a obtenu le prix Pritzker. Le voilà ici, à côté de Ronald Reagan.
En 1983, un an avant que lui soit confié le projet de la pyramide.
Homme très proche du pouvoir, on pourrait dire pratiquement à l'instar du Bernin avec le pape, mais ici, c'est un homme qui est proche du pouvoir américain des États-Unis, arrivé à 18 ans et demeuré toute sa vie aux États-Unis. Ce n'est donc pas un hasard lorsque François Mitterrand lui demande de repenser le Louvre qu'il s'adresse à cet homme-là. Proche du pouvoir d'une part, mais d'autre part, quelqu'un qui a travaillé déjà sur des institutions publiques, sur des musées, et qui sait les aménager à l'américaine, dirait-on, avec tous les services nécessaires à un musée moderne, cafétéria, vestiaire, toilette, etc. Ici, on voit le décalage de niveau entre les musées américains des années 80, qui sont en extrêmement bon état, ou qui booment et qui sont rénovés, et par ailleurs la situation en Europe que j'ai évoquée tout à l'heure. De manière significative, lorsqu'on apprend dans la presse internationale que Pei obtient le contrat du Louvre, il est qualifié dans la presse américaine d'architecte américain. Je vous montre ici une page du New York Times où il est bien dit que cette architecture qui va être un projet qui va coûter extrêmement cher a été confiée pour être fini en 1989, et c'est un Américain, M. Pei, qui va s'en occuper. Or, il s'agit évidemment d'un homme qui a fait toute sa carrière, toute sa formation dans le contexte américain, qui a des réseaux considérables jusqu'à la pointe du pouvoir américain. C'est bien un artiste, un architecte, un homme d'affaires aussi, qui comprend et connaît les codes. Pourquoi j'insiste tant là-dessus? Parce que dans l'imaginaire collectif français, dans le discours français jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours d'un architecte chinois quand on parle de Pei. Or, il s'agit évidemment d'un homme qui a fait toute sa carrière, toute sa formation dans le contexte américain, qui a des réseaux considérables jusqu'à la pointe du pouvoir américain. C'est bien un artiste, un architecte, un homme d'affaires aussi, comprend et connaît les codes des États-Unis, États-Unis où le monde des musées est très en avance sur celui de l'État européen dans les années 80. Et c'est bien pour ça qu'on s'adresse à ce moment-là à Pei. Il s'agit de bombarder, de bimer le musée du Louvre qui est en très mauvais état dans le 21e siècle en faisant en quelque sorte un musée américain. Opposé à ce qu'il appelait l'impérialisme américain. Donc il y a une certaine ironie à s'adresser à ce moment-là pour le Louvre, pour la demeure royale, pour le musée au centre de Paris, de s'adresser à l'ennemi impérialiste d'une certaine manière, d'où l'insistance sur le fait que Pei est chinois. Une autre raison pour laquelle la France s'adresse à Pei, c'est que elle espère très probablement, et c'est ce que suggère cet article du New York Times que je vous montre ici, elle espère trouver des financements pour ce projet énorme, gigantesque, trouver des financements aux États-Unis. On voit qu'ici, la France, dans cet article de 1987, que les Américains cofinancent le projet parce qu'ils sont une part importante du Louvre depuis toujours, dit Biasini, et il insiste, ils sont bien plus nombreux que les visiteurs français. Donc il y a vraiment une stratégie muséale, mais aussi économique à s'adresser à ce moment-là à un Américain.
Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années de l'opposition cruelle, violente, qu'a subie Pei lorsqu'il a proposé son projet à Paris. Il a subi une opposition violente, une opposition dans la presse, notamment dans Le Figaro et dans François, mais aussi une opposition institutionnelle lors d'une réunion souvent citée de la Commission des monuments et des sites à laquelle participaient des architectes, des gens de patrimoine, des professeurs d'université, qui a été décrite ainsi a posteriori, et je vous montre quelques extraits du livre que je citais précédemment sur l'invention du Grand Louvre.
Vous voyez ici quelques-uns des membres de cette commission qui comportait une femme, les noms sont bien connus, et lorsque Biasini, Émile Biasini et Pei ont présenté le projet. Voilà ce qui se passe. D'après les souvenirs d'Émile Biasini, la salle du sous-sol était pleine quand IMP fit éteindre la lumière pour présenter son projet avec des vidéos. Ce fut immédiatement le charivari, un énorme chahut comme dans une classe de potage turbulent quand l'électricité tombe subitement en panne. On en était presque aux boules puantes. L'interprète que j'avais engagé en est resté bouche bée, incapable d'articuler un mot, puis de retenir ses larmes. Un courageux interprète anonyme s'efforça alors d'assurer au milieu des ricanements une traduction de la présentation, devenue nécessairement sommaire, du projet. Pei s'efforça de poursuivre la présentation de ses images, mais il était abasourdi. Jamais il n'avait connu pareil accueil. Que n'a-t-on entendu ? Petit chinois, donnant la leçon aux architectes français. On n'est pas chez Disney. Monument funéraire, massacre du Louvre, les sauvages sont là, laissons les Chinois en Chine, erreur scandaleuse et prétentieuse. J'ai la charité de ne pas citer les noms des principaux intervenants dont je revois les silhouettes gesticulantes, écrit Émile Biasini. Et Pei commente lui aussi dans le même volume l'effet qu'a produit cet acte de racisme à son encontre, ses remarques racistes. Il explique que ne parlant pas le français, il ne les a pas comprises, mais qu'il a été terrorisé par l'accueil qui lui a été fait ou par l'attitude des fonctionnaires de la culture français qui l'accueillaient.
Finalement, la situation a été sauvée par un grand nombre d'alliés qu'il a eu à Paris, mais ici, on revoit se jouer, en quelque sorte, ce qui s'était joué d'une autre manière, bien sûr, plusieurs siècles avant, autour du Bernin, c'est-à-dire une opposition de gens moyens, médiocres, qui vont utiliser tous les outils, et ici aussi chauvins et racistes, pour discréditer le travail d'une grande personnalité. Non seulement les institutions se sont opposées violemment au projet de Pei, mais également la presse, et je vous renvoie à un article remarquable qui montre aussi les retournements de la presse, un article paru dans l'architecture d'aujourd'hui.
En 1989, sous la plume de François Chalin.
Alors, on évoquait tout à l'heure dans le texte de Charles Perrault, dans les mémoires de Charles Perrault, le terme d'incongruité qu'il reprochait à l'architecte italien Bernini. Ici, on retrouve ce terme d'incongruité dans la presse. Je vous montre un article souvent cité de François, le premier article hostile au projet de Pei, qui indique
« Le nouveau Louvre fait déjà scandale, la commission des monuments juge le projet incongru. »
On est vraiment dans la même logique de rejet d'un petit milieu parisien qui ne peut pas s'ouvrir à un autre discours, à d'autres réseaux, à d'autres manières de faire, à une autre esthétique que la sienne. On retrouve en effet ensuite la métaphore du corps étranger, métaphore double qui s'adresse d'abord à l'étranger qui est l'architecte qui va mener ce projet, mais aussi qui s'adresse à la forme qu'il entend implanter dans le Louvre, dont on a vu que c'est une forme qui avait déjà été proposée, la pyramide, au XVIIe siècle. Alors cette pyramide, ce n'est qu'un élément pratiquement secondaire dans un ensemble bien plus vaste qui consiste à réaménager complètement les entrées du Louvre, à donner une entrée commune et les espaces pour installer toutes les coulisses d'un musée, c'est le terme qui a été utilisé à l'époque, en plus des salles d'exposition. Et c'est tout cet ensemble-là qui va faire le succès du Louvre, dont le nombre de visiteurs après l'inauguration de la pyramide à la fin des années 80 va faire un bond considérable jusqu'à être aujourd'hui le musée le plus visité du monde, le plus visité parce qu'il a l'infrastructure que lui a donnée Pei à la fin des années 80, infrastructure qui avait été importée des modèles américains. Alors, outre le débat sur la personne, ses propos racistes, ses rejets de l'architecte Pei, on trouve dans la presse internationale d'autres discussions qui sont intéressantes à observer. D'abord, des discussions qui font simplement part et qui rendent compte des débats parisiens et qui posent la question, comme ici le New York Times, de la congruité ou de l'incongruité de la forme proposée par Pei, qui évidemment ne s'adapte pas à l'environnement, mais qui vient le confronter. L'architecture de Le Fuel n'est pas reprise d'une certaine manière nostalgique ou inventive par Pei, il propose vraiment quelque chose de totalement différent. Et on repense au texte de Gropius sur le rapport entre modernité et tradition d'ailleurs. Outre le débat sur la forme se joue un débat sur le courage institutionnel d'une certaine manière, et j'ai pris plaisir à retrouver un texte d'Italo Calvino, du grand écrivain italien dans la Repubblica, qui commente les débats autour de la pyramide du Louvre en termes de peur, d'inquiétude, de peur d'oser trop, de trop faire. Et c'est peut-être là aussi un lien vers le XVIIe siècle. On a l'impression que quand Bernini a été renvoyé chez lui, c'est peut-être parce que finalement le roi et Colbert avaient eu peur d'aller trop loin. Et ici, cette peur est thématisée par Italo Calvino. Je vous montre son article ici, ou un extrait de l'article.
Il écrit « Aujourd'hui domine un sentiment d'insécurité, parce que d'un côté, on sait que seules les décisions courageuses donnent de grands résultats, et que de l'autre côté, on sait que chaque décision peut aller dans le mauvais sens et tout casser. Et cette insécurité, dit-il, ce doute, se reflète absolument dans les discussions qui continuent, on est en 1985, qui continuent autour du Louvre. »
Troisième élément de discussion qui me paraît intéressant, il se trouve beaucoup dans la presse britannique. Vous savez que le prince Charles est féru d'architecture.
Et on voit notamment dans The Times en 89, au moment de l'inauguration de la pyramide, un article qui reproche à l'Angleterre de ne pas avoir le courage de formes nouvelles, mais de prôner plutôt le post-classicisme, c'est-à-dire une imitation de l'ancien qui donne un résultat pastiche, nous indique ici l'auteur, et on voit bien ce qu'il veut dire à propos de paix, qui fait exactement le contraire d'un pastiche, quand on compare la pyramide qui est évoquée donc dans cet article à la nouvelle aile que vous voyez ici de la National Gallery à Londres, inaugurée en 1991, qui reprend, qui cite l'architecture de temple de la National Gallery, que vous voyez tout à fait à droite dans son bâtiment original du 19e siècle. Dernier élément souligné beaucoup par la presse étrangère, c'est la manière dont Mitterrand ici se met en scène son propre pouvoir. Vous voyez dans cet article du Spiegel qu'il est indiqué que ce bâtiment et d'autres sont un message à l'univers. Il s'agit selon eux, pour Mitterrand, d'asseoir son pouvoir, de manifester son pouvoir, de le rendre visible, comme le roi Soleil avait pu le faire au XVIIe siècle. Et ce jeu de pouvoir avec l'architecture inquiète notamment les Allemands.
Et elle est souvent reprise sous forme ironique, sous forme amusée dans les dessins de caricature. Je vous montre ici simplement pour l'avoir montré
le sphinx François Mitterrand près de sa pyramide.
Donc les discussions portent moins sur la symbolique de la pyramide. On n'imagine pas que comme dans le cas du XVIIe siècle, que les quatre faces du monde sont représentées ici. On évoque bien davantage le fait qu'il s'agit d'un architecte étranger et que pour le Louvre, certains attendraient à ce que l'architecte soit français. Deuxièmement, qu'on est face à une pièce qui ne joue pas, ou en tout cas qui ne dialogue pas de manière explicite avec l'architecture existante, donc un choc entre la tradition et la modernité. Et puis troisièmement, un lieu absolu de pouvoir. Et le fait que, comme l'avait fait Louis XIV et Colbert, le fait d'attirer l'architecte du pape. Ici, on voit bien que Mitterrand attire l'architecte de Kennedy et de Reagan. Ces jeux de pouvoir autour de l'architecture sont absolument évidents et liés à la personne de paix.
Alors, pour finir, sous forme de clin d'œil, je termine avec cette photographie de paix qui regarde une maquette de la cour Napoléon. Il est penché au-dessus de la maquette, il regarde l'objectif et j'attire votre attention en bas à droite sur une sculpture montée sur un haut socle que vous voyez ici, qui ne me paraît pas être encore celle de Louis XIV, mais peut-être est-ce un effet de la maquette, et qui peut être interprétée comme une sorte de revanche que Paix aurait pris pour le Bernin en réintégrant en ce lieu la personnalité et la création de celui qui en avait été rejeté parce que trop indépendant, parce que trop audacieux et parce que trop italien et pas assez parisien. De manière significative, cette statue réalisée par le Bernin avait été complètement remodelée au moment de sa livraison et elle n'a jamais été exposée à l'endroit pour lequel elle était prévue, mais à Versailles, où il en existe encore aujourd'hui une copie. Je vous montre un dessin de l'original du Bernin ici et la copie au fin fond du parc de Versailles et je vous remercie de votre attention.
Tout en vous donnant rendez-vous la prochaine fois pour une séance intitulée « Regards au pluriel ».